Vous êtes bien au deuxième étage à gauche en sortant de l'ascenseur. Entrez dans le Loft Musique sur Sud Radio.
Je poursuis la série de la matière verbale qui sonne dans l'univers musical. Vous voyez, qui groove, qui swing, qui moissonne le champ lexical. Et j'ai pensé ce matin à un mot presque électrique dans lequel on entend clé, dans lequel on entend clic, le mot éclectique. Comme une serrure mécanique, vous voyez, qui se verrouille par un déclic. Une évidence de complémentarité, de contraste nourrissant, de mélange flamboyant, d'exaltante contradiction et d'humilité forcée. Tout cela par un petit bruit discret validé. Un joli petit clic qui force le respect. Un petit son très court et très chouette. Pirouette, cacahuète. Voilà, parce que la chanson, c'est l'art de mettre au même niveau d'exigence le sens et le son. Eh ben oui, vous connaissez la chanson, enfin le refrain, quoi. Bon, mais revenons à nos moutons. À propos du mot éclectique magnifique, j'en profite pour lire du Gide, de l'André, enfin pour le citer. Certains critiques m'ont reproché l'éclectisme de mes goûts et m'ont appelé dilettante, parce que je n'exige que de moi-même les qualités qu'ils exigent d'autrui. Voilà, nous sommes jeudi et ça c'est dit.
Sud Radio, Loft Musique,
Yvan Cugios.
Il m'arrive de me réveiller avec des sons comme ça, vous voyez, des mots. Par exemple, bon, sans parler de ma vie privée, sans savoir si l'enfant que ma compagne attendait était une fille ou un garçon, j'ai eu un mot qui m'est arrivé comme ça, juste au réveil, le prénom de ma fille. Et j'ai su immédiatement que ce serait une fille. Et ça a été le cas. Et j'ai eu le prénom qui m'est arrivé comme ça. C'est quand même dingue, les choses. Hein. Vous y croyez, vous aussi, à ça, à ces mots qui arrivent, on ne sait où, dont on ne sait où plutôt. En tout cas, c'est bien le royaume des mots. On aime les travailler, les mots, on aime les chanter. C'est pas les invités de ce soir qui vont me contredire. Ils sont amoureux des mots, nos invités de ce soir. Nous parlerons, permettez-moi juste avant, de vous remercier d'être là, au fait, et de plus en plus nombreux. Hier, vous nous avez fait encore exploser le standard. Camélia, qui vous reçoit, était en colère parce que vous aviez tout grillé, quoi. Elle a passé la nuit avec le fer à souder. Thibaut aussi, donc ça ne peut pas durer. Vous pouvez quand même encore essayer de nous appeler sur le 0826 300 300 pour parler aux invités que je vais vous dévoiler dans quelques secondes. Tout ça rime, c'est merveilleux. Et vous pouvez aussi nous rejoindre sur les réseaux sociaux par le Facebook Live de Sud Radio ou celui du Loft Musique où vous nous verrez. Vous voyez ? Mais un indice pour voir l'invité qui se cache derrière la première chanson. Alors, ce soir, nous évoquerons, parce qu'on est en temps de crise dans les métiers de la musique, les métiers de la culture en général, nous évoquerons le métier d'attaché de presse qui est soumis à rude épreuve. En ce moment, on aura François Troller qui est attaché de presse de plein de gens connus et qui nous fera part des craintes et des difficultés de ce métier en ce moment. Et puis l'ami Serge Liado qui va vous faire entendre ces choses extrêmement exceptionnelles qu'il appelle hallucination auditive. C'est-à-dire que vous écoutez une chanson en anglais, d'accord, plein de tubes que vous imaginez, et à un moment donné, il va vous dire « on dirait que on entend ce mot français ». Vous voyez, le texte anglais vous fait penser à une expression française à un moment donné. Et à partir du moment où on vous a mis ce mot français dans l'oreille, jamais plus vous n'entendrez à nouveau le mot anglais originel. C'est fou, ça. Vous demandez ce que c'est, ben vous allez attendre un petit peu et vous allez le comprendre. Voilà ce que je vous propose. Nous aurons ce soir en invité en direct au téléphone une des belles émergences de ces dernières années, l'ami Teamed Up. Et puis il chante un Teamed Up, c'est pas que de l'instrumental. Et puis celui qui nous présentera son nouvel album Homeless Song, qui a adopté le sud, tiens, de la France depuis quelques années, parce qu'il y est bien, et on est heureux de l'avoir avec nous. Il s'appelle Stéphane Echer.
Déjeuner en paix. Déjeuner en paix.
Stéphane Escher, teamed up dans le Loft Music. On est ravis de vous recevoir encore ce soir. Nous allons écouter le single. Le titre que l'on vous propose s'appelle Monsieur Je ne sais pas trop. C'est extrait de l'album Homeless Song de Stéphane Escher qui est avec nous dans quelques secondes en direct au téléphone. Il est sorti cet album à l'automne 2019. On est ravis de le recevoir ce soir, 0826 300 300 pour le joindre si vous voulez tout de suite.
Tous les nuages, tous les ciels gris. Les naufrages, pas un ne suffit. Tous les visages dans ma galerie, tous les regards dans mon esprit. Que faut-tu pour trouver ma chair? Que faut-tu pour te satisfaire? Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas trop. Oh. Aucun rivage ne m'a réussi, aucune histoire que je n'ai trahi. Et je saccage et je démolis, je tourne les pages, je n'ai rien d'écrit. Que faut-il pour trouver ma chair? Que faut-il pour te satisfaire? Que faut-il pour trouver ma chair? Que faut-il pour te satisfaire? Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas trop. S'emplit pas. Que faut-il pour trouver ma chair? Que faut-il pour te satisfaire? Que faut-il pour trouver ma chair? Que faut-il pour te satisfaire? Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas. Monsieur, je ne sais pas trop.
Monsieur, je ne sais pas trop, Stéphane Escher, c'est un extrait du nouvel album de Stéphane, Homeless Song, qui est sorti à l'automne 2019. Bonsoir Stéphane Escher, merci d'être avec nous.
Bonsoir, bonsoir, plaisir d'être là.
Content de te recevoir entre gens du Sud. Je le disais tout à l'heure, Stéphane Escher, tu as adopté le Sud et tu ne le quittes plus parce que tu as enfin compris que c'était la plus belle région du monde, le Sud de la France. Voilà, c'est mieux que la Suisse.
Oui, même. Il y a même un confinement qui m'a un peu attaché.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire que quoi, ça t'a permis de découvrir un peu plus les alentours ou quoi, ou de découvrir ta maison?
Pas du tout, non, non. Non, ici, ils envoient des hélicoptères si tu sors trop. Ou la plage est fermée, tout ça. Maintenant, peut-être ça s'ouvre. Non, c'est assez rude en France, comment nous garder à la maison.
Bien sûr. La France, tu la connais évidemment par cœur, Stéphane Escher. Tu l'as parcourue en long, en large et en travers. Tu l'as citée même avec l'album Carcassonne, c'était époque médiévale, etc. Et on peut dire qu'en tant que Suisse, tu es un amoureux de la France, Stéphane Escher.
Au début, j'étais un peu fâché avec vous parce que mon premier temps d'amour, quand j'étais 17 ans, elle est partie à Paris pour étudier, de faire des costumes, comment on appelle ça, pour
costumière,
faire des vêtements. Oui, voilà.
Et ah puis, oui,
dit,
tailleur.
Non, je veux pas te quitter. J'ai dit non, je t'amène à Paris et puis quand tu es bien installé, je repars à Berne et puis tu vas trouver ta vie et on se voit et tout ça. Elle s'est adaptée extrêmement vite et bien sans moi à Paris. Et ça m'a brisé un peu le cœur. C'est la raison pourquoi je chante en français. Après, j'ai pris tous les mots que je connaissais en français pour faire des chansons un peu ridiculement émotionnelles. Et puis, tout à coup, les radios ont aimé ça. Et voilà. Au début, c'était une histoire difficile. Mais c'est toujours les belles histoires longues. Ils commencent de temps en temps un peu difficile. Voilà.
Est-ce que finalement la vie n'est pas faite que de malentendus pour le coup, Stéphane Escher, selon toi ?
J'espère. En plus, quelqu'un comme qui a un accent comme moi, j'ai entendu un peu vous parler beaucoup des mots anglais qu'on croit que c'est français. Moi, j'adore les malentendus entre nous. Je trouve ça très dans mon métier, hein, artistique, pas dans un sens politique, mais ou social. Là, il faut pas des malentendus, mais dans la rêverie, dans les petites clandages artistiques que je fais. Moi, j'aime bien le flou me plaît. Ouais. Ouais.
Oui, c'est ça. C'est ce qu'on appelle dans le jazz, par exemple, la note bleue, c'est-à-dire la chose un peu accidentelle qui tout d'un coup devient belle, extrêmement positive et amène une valeur ajoutée, quoi.
À mes musiciens, j'ai dit toujours, s'ils commencent très avec moi, qu'ils ils sachent pas comment je fonctionne, j'ai dit, faites les fautes, mais seulement les bonnes fautes. Faites seulement les fautes. Il y a des bonnes fautes qui nous montrent une autre vision de la chose. Celle-là, moi, j'ai fait plein de fautes tout le temps.
C'est chouette.
Ouais, je crois même la création de la Terre, c'était oh là là, qu'est-ce qu'on fait? Homme,
faute,
femme, hein. Oh, quel merdier! Ok, on laisse couler, on va voir qu'est-ce que ça donne, machin.
Ouais. J'adore cette approche. D'ailleurs, ça me fait penser à Miles Davis qui, d'une autre manière, disait qu'importe de jouer beaucoup de notes dans le jazz, l'essentiel c'est de jouer les plus belles. On est dans cette même idée.
Miles Davis, là je vais sur mes genoux. Si tu parles de Miles Davis, je vais devenir tout émotionnel parce que c'est un des plus grands peintres musical qui existait maintenant. Ouais.
On est bien d'accord. Stéphane Escher, après cet album qui avait revisité tes grands succès avec cette fanfare balkanique, alors moi qui ai l'accent du sud-ouest, comme tu l'entends, j'adore.
Oui,
je me régale de le prononcer, c'est Traktor Kestar. Alors ça, j'ai plein la bouche. Traktor Kestar. Ouais, voilà. C'était la fanfare balkanique.
Moi, je suis sûr que ça, c'est vraiment, c'est le mot vraiment pendant le Covid. Pas prononcer parce que là tu projectes le virus de 5 mètres autour de toi.
C'est
le dis pas, Traktor Kestar, tu vas pourrir ta vie. Quoi. Il faut pas.
Moi, j'ai pourri la bonnette du micro tellement j'en ai mis.
Oui,
partout.
Oui. Bon. Le suisse allemand, c'est vraiment le langage pas utilisé dans ces temps-là.
Oui, ouais. C'est ça. Voilà, ils sont plus exposés que nous, ça c'est clair. Alors là, tu es revenu à quelque chose de plus apaisé. Alors évidemment, c'est un peu devenu un lieu commun parce qu'on a entendu parler beaucoup de cet apaisement et des petits soucis que tu avais eus. Et l'apaisement se retrouve dans l'écriture musicale que tu nous as faite sur ce nouvel album où on est dans quelque chose de beaucoup plus confortable, beaucoup plus moelleux, avec des pianos extrêmement classieux, extrêmement, comment dirais-je, doux, un orchestre de chambre, par exemple. Mm-hmm. Je rappelle qu'un orchestre de chambre, c'est un petit orchestre classique d'une trentaine de musiciens, avec ces formats que tu as un peu cassés de manière très taquine pour emmerder un peu la maison de disques qui t'avait posé
absolument
des soucis à l'époque.
Oui.
T'as filé par exemple une chanson de 45 secondes, Stéphane Escher. Qu'est-ce que tu veux qu'en radio on fasse avec ça en radio?
Je sais pas, mais non, moi j'ai eu plein d'idées sur ce disque. C'était au début pour emmerder l'industrie des disques, ça veut dire de faire des chansons très courtes. Quand j'ai commencé à écrire le disque, on pouvait encore acheter des chansons sur les. C'était pas seulement les streaming, tu pourrais acheter chez Apple des chansons ou chez Amazon. Et j'ai remarqué que pendant 30 secondes, tu pourrais écouter gratuitement les chansons. Et j'ai dit, si je fais toutes mes chansons moins longues que 30 secondes, la maison disque n'arrive même pas à les vendre. Et j'ai commencé à écrire des chansons très courtes pour les emmerder. Et tout à coup, j'ai trouvé un vrai plaisir comme faire des haïkus, ces poèmes japonais très courts. Trois lignes.
Il y en a un d'ailleurs. Il y en a un dans l'album.
Qui s'appelle Haiku, mais qui est plus long. Mais voilà, c'est de faire des choses très courtes. Tout à coup, il y a eu un vrai plaisir. Vraiment artistique.
Mais tu vois, on reparle de malentendus finalement. C'est-à-dire qu'au départ, tu n'étais pas parti là-dessus, mais le contexte t'amène à cette création-là, à cette idée-là, quoi.
Absolument, absolument. C'est comme l'orchestre, c'était vraiment. J'ai envoyé le disque à un avocat parce que j'étais en conflit vraiment devant les tribunaux en France, qui sont quelque chose d'assez compliqué si tu n'as pas énormément d'argent, parce que c'est très cher d'avoir raison en France, et ça dure très, très longtemps. Et il a écouté, il dit, c'est un très beau disque, mais on a l'impression, un peu de guitare acoustique, un peu de piano, que tu as fait quelque chose de beau marché. que... Et j'ai dit, mais comment je peux briser ça? Et je me disais, si je vais dans un studio à Bruxelles avec un orchestre de 30 personnes et je claque une voiture familiale, le prix d'une voiture familiale française, est-ce que le juge va dire que c'était bon marché? Et il dit, non, c'est quoi ça, ça va? Mais il n'a jamais cru que je vais le faire. Et je suis entré dans le studio, il y a... Sur une chanson, il y a pendant 4 secondes un grand orchestre. Et tout à coup, de nouveau, j'ai trouvé un charme esthétique. Et j'étais heureux. Finalement, j'étais heureux qu'ils m'ont emmerdé la maison disque. Ça me donnait un disque spécial.
Exactement, c'est la contrainte qui est motrice souvent de l'inspiration. Et quand tu parles de ça, Stéphane Echard, nos collègues du Monde ont mis en titre, j'ai vu sur un des articles de presse, justement précisément ça, quand un avocat devient directeur artistique. C'était un peu ça.
C'est un peu ça, voilà, c'était ça.
C'était ouais, un peu ça l'idée. ça m'a bien fait rire. Quand on ouvre ce disque avec Si tu veux, justement, justement règle un peu ces choses-là et tu dis de manière très pudique et très sincère que voilà, pour qu'un chanteur chante, et toi en particulier, ben, ne m'emmerde pas, ne sois pas infidèle, ne me crois pas si fort, ne me crois pas si faible. C'est-à-dire qu'il y a un besoin quand même quand on est artiste d'une sécurité, d'une confiance, d'un confort propice à la création. C'est ce que tu vis, toi.
Non, pas du tout.
Alors,
pardon.
Alors dis-moi. Mais non, bien sûr, ça m'intéresse.
On fait cette émission.
oui.
Non, je crois la création, elle a pas besoin de sécurité. C'est le plus bancal que tu te sens émotionnel, le plus intéressant, le résultat. Ce que je trouvais pas que je pouvais pas avaler, qu'il y a des contrats. On a des contrats avec les maisons de disques et dans les contrats, il y a des pourcentages qui sont fixés. Le travail qu'ils amènent, qu'est-ce qui se passe quand je vais en tournée, quel D'accord. soutien je reçois d'eux, parce que c'est une industrie quand même qui fabrique des disques et qui est... Et puis j'ai remarqué que ce qu'ils m'ont écrit dans le contrat était pas du tout respecté. C'était vraiment presque une foutage de gueule. Et c'est là que j'ai dit, si tu veux que je chante, ne sois pas infidèle. Ça veut dire, sois fidèle à ce contrat. Mais je crois le directeur de Maison Disque, quand j'ai sorti le disque, il était même viré. Il l'a même pas entendu, je crois. Mais après, on peut aussi le prendre comme... Moi, je trouve ça joli si quelqu'un, un artiste dit, si vous voulez que je chante, soyons pas infidèles, soyons fidèles. Ouais, mais à la base, je trouve être déstabilisé un chouette début d'un disque. Mais quand il sort, il faut un système stabilisé,
Mais c'est là. Ça me fait penser à Nougaro qui disait en parlant de la création ou de la liberté que la vraie liberté c'était de pouvoir choisir ses propres barreaux, quoi. C'est un peu ça, c'est une liberté surveillée.
C'est ça, c'est... En plus, on est dans la musique, ça veut dire on a 8 notes qui sont possibles. Si on écrit un texte, on a un peu plus de possibilités. Mais la réduction est aussi une liberté incroyable. Mais là, on devient philosophique. Les gens vont s'endormir, là.
Mais non, Stéphane Echard, non. Mais non, bien sûr que non. Surtout que je les invite à écouter cet album vraiment très, très réussi, qui te correspond bien, qui te va bien, que j'ai eu un grand, grand plaisir à écouter les textes signés Philippe Jean. La plupart, il y a une chanson de Miossec, en trio avec Axel Red, qui s'appelle La fête est finie. Et puis je parlais, tu sais, Stéphane Echard, de ce confort, etc., de ce cadre, mais tu prouves, et j'ai lu ça quelque part, que tu peux t'adapter très très vite et même improviser, puisque j'ai vu qu'à Nyon, au Festival de Nyon, ça m'a fait marrer, ça tu vas m'expliquer, tout d'un coup il y a eu le groupe Chaka Punk qui a annulé, et toi tu as improvisé une espèce de chorale avec du public, etc. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi, Stéphane Echard.
Le paléo, pour nous en Suisse, c'est un peu les vieilles charrues. C'est vraiment le grand événement. Voilà, c'est un grand truc et que j'ai joué déjà plein de fois. Et là, j'étais invité avec le Tractor Kestar. Attention, j'ai encore donné le Covid à plein de chansons. Et la chanteuse de Chaka Punk a eu un problème, elle pouvait pas chanter. Et moi, j'ai dû annuler l'année avant, pour des raisons de santé, plusieurs festivals. Et ça m'a vraiment brisé le cœur de pas tenir mes rendez-vous. C'est horrible pour moi. Et quand je l'ai entendu, j'ai dit, oh là là, est-ce que je peux aider? Est-ce qu'il y a un truc à faire? Et les organisateurs, ils ont dit, mais tu peux peut-être inventer un truc, parce qu'il y a eu Robert Charlevoix qui était quelque part. Ah ouais. Il y a eu un cirque tout à coup, parce que c'est un très grand festival, il y a aussi un cirque, ça serait pas mal d'avoir des jongleurs pendant qu'on fait un concert. Et on a commencé à délirer, ça se voit un peu sur Internet, il y a un site, j'ai pas Léo, où on voit un peu comment, en plus il pleuvait des cordes, c'était horrible. Et à minuit, ou Chaka Ponk, samedi, c'est la grande soirée, samedi, on aurait dû jouer dans la pluie. On est arrivé avec une espèce de revue avec, j'ai cherché des 30 chanteurs dans la boîte qui ont répété des chansons. C'était vraiment un moment féerique. Et le public est resté. Moi, je me dis, ils vont tous rentrer parce qu'il n'y a pas Chaka Ponk dans la pluie, là. Et c'est devenu un moment inoubliable pour moi, je crois, pour les gens aussi. Parce que ça a vraiment fonctionné. On a eu des jongleurs qui se jetaient. Charlevoix qui commençait à se foutre de ma gueule. C'était vraiment très beau. Très, très beau. Voilà.
Stéphane Deschères, je suis très content de t'avoir. On a eu plein de monde au standard, juste avant de... Parce que je sais que tu es un petit peu pressé, mais on va prendre juste Annie de hier qui souhaitait te poser une petite question au 0826-300-300 sur Sud Radio. Bonsoir Annie de hier.
Bonsoir Yvan, bonsoir Stéphane.
Bonsoir Annie. Merci d'être là. Nous sommes entre gens du Sud. Hein. On est dans la.
Oui, voilà. Du plein Sud de la presqu'île de Gien. Oui.
Absolument. Alors, une petite question pour Stéphane Deschères, Annie.
Une petite question pour Stéphane. Je suis d'abord tout à fait d'accord avec lui. Ce n'est pas dans le confort et dans l'opulence que vient la création et l'inspiration, parce que c'est plutôt dans les moments douloureux et difficiles qu'on a de l'inspiration quand on est artiste. Mais je voudrais savoir, Stéphane, comment se vit pour vous cette période où vous avez été coupé de votre public, alors que l'essence même d'un artiste, c'est l'émotion qu'il a de rentrer sur scène et de se produire sur scène. Ce confinement a pu vous marquer ?
Stéphane Deschères.
Oui, c'était extrêmement violent. Je m'imaginais que ça va être violent, mais c'est beaucoup plus violent que j'ai attendu, parce que j'ai cru... Comment je peux vous dire ? On était en plein tournée, on a joué à Carcassonne, une sublime soirée avec vraiment c'était un concert, et on était en train de monter à Paris, à l'Olympia, qui est un autre endroit qu'on a vraiment, si vous venez de la Suisse, l'Olympia, c'est wow, c'est le, et on nous a dit non, ça se fait pas, et ça se fait pas, ça se fait pas, et je me disais peut-être c'est pas si mal, je peux me reposer un peu et travailler des chansons, et tout à coup, il y a un énorme manque aussi de jouer avec mes musiciens, les techniciens, parce que c'est comme une famille. Et puis, il n'y a pas le rideau qui s'ouvre, il n'y a pas cette émotionnalité qui se passe. Et puis, j'ai commencé à faire du streaming, ça veut dire sur Facebook, des petits lives comme ça. Et tout à coup, je me trouvais très, très vaniteux, parce que ce manque, j'essaie de le combler en chantant dans un téléphone, ce que je trouvais vraiment un peu triste. Parce qu'il n'y a pas, il n'y a pas à remplacer la
un bon le contact avec
le public, parce que ça se fait ensemble, un concert ça se fait ensemble. Je suis un vampire, j'ai besoin le public pour être bon, vous voyez ce que je veux dire, j'ai besoin mes musiciens pour être bon, il faut qu'ils me poussent, qu'ils me
donnent des ailes, qu'il y ait une interaction.
Et tout à coup on a entendu que non, pas cette année, peut-être pas, je sais pas, il faut trouver un vaccin, ils vont jamais trouver un vaccin, je sais rien. Et ça, c'est très violent pour moi. Et voilà, je souffre spécialement le soir. Le matin, je suis toujours très courageux, mais le soir, j'ai vraiment le blues, quoi. Comme maintenant.
Mais je rigole. On va te libérer, Stéphane Deschères. Je crois que tu as un autre rendez-vous de médias, donc on ne va pas te mettre en retard.
Non, je dois cuisiner pour ma famille. Oh.
Ah, tu cuisines pour ta famille.
C'est vraiment important.
C'est fondamental. Qu'est-ce que tu as prévu ce soir? Qu'est-ce que tu as prévu si c'est pas indiscret ce soir? Une ratatouille, une entrecôte, du poisson?
Non. Là, je dois même regarder ce qui reste dans le frigidaire.
Oui, t'en es là, d'accord.
Un truc. Non. Je crois il y a une purée des pommes de terre avec un peu trop de beurre pour remplir les estomacs, et puis je vais improviser quand même. Mais la pomme de terre, elle est bonne, là, c'est bon. Voilà.
Ouais, merci mille fois. Merci. Okay. Merci mille fois, Stéphane Deschères. Merci beaucoup. Merci. Merci Annie. À tout bientôt du côté de Hier. Et merci à Stéphane Escher. L'album s'appelle Homeless Song. Je vous le recommande vivement. Stéphane Escher, salut. À tout bientôt. Dans quelques secondes, nous aurons Team Up. Nous parlerons également du métier d'attaché de presse en danger en ce moment avec François Troller. Et puis les hallucinations auditives avec Serge Liado. C'est juste après dans ce Loft Musique en direct comme tous les soirs sur Sud Radio.
Sud Radio, Loft Music,
Yvan Cugios.
Comment allez-vous en ce jeudi 14 mai, alors qu'il est 20h28 et qu'il fait beau, que l'ami Stéphane Escher va cuisiner pour sa famille, on le sait, on est ravis, et que vous, peut-être, vous êtes déjà devant les fourneaux, devant la table de la cuisine, et vous écoutez le Loft Music, vous écoutez Sud Radio, comme tous les soirs, vous avez bien raison. Ravi de vous accueillir devant le piano. Pour que vous puissiez dîner en paix. Ça, c'était un peu facile, mais bon, on ne peut pas s'en empêcher. Demain, nous aurons, je vous le précise, ou vous le rappelle, Rose, qui sera avec nous, Mathias Malzieu, également, pour nous parler d'une de ses découvertes. Mathias Malzieu, le chanteur emblématique du groupe Dionysos. Merci à toute l'équipe du Loft de nous accompagner, de vous accompagner tous les soirs dans ce Loft Musique. Nous allons, avec l'ami Serge Liado, évoquer les fameuses hallucinations auditive. Alors si vous voulez voir dans quel antre vit Serge Liado, vous vous connectez sur le Facebook Live tout de suite de Sud Radio et du Loft Music. Vous allez voir que derrière l'ami Serge, il y a une tonne de disques, il y a du bordel surtout. C'est un peu ça. Mais pas que. Il y a...
Et si tu n'es pas gentil, je ressors les maquettes que tu as fait quand tu débutais et tu vas pleurer. Hein.
Ah, ça m'a fait rire parce que ça arrivait, c'était facile, mais je l'ai faite. Serge Liado, donc, qui est avec nous ce soir et qui est, comment dirais-je, d'abord un artiste, un musicien, un auteur, un chansonnier et un passionné de chansons qui lui a permis, dans ces dernières années, de faire beaucoup de recherches, si je puis dire, de trouver des choses, des anecdotes autour des chansons qui se ressemblent, par exemple, de créer des rapprochements inattendu, improbable, entre des titres, entre des artistes, de voir des trucs, voilà. Et il a inventé ce truc quand même. C'est à toi que revient la paternité de ces hallucinations auditives qui, depuis, ont été beaucoup reprises, un peu partout. Et j'ai envie de réécouter ce moment exceptionnel, ce montage que tu as fait. Mais juste avant, mon Serge Liado, réexplique-nous qu'est-ce que c'est qu'une hallucination auditive.
Très bien. Je voudrais dire quand même que c'est une paternité partagée, puisque au départ, c'était une suggestion d'un auditeur, un ancien journaliste. Et à partir du moment où j'ai commencé à travailler là-dessus, j'en ai trouvé. Et puis, des auditeurs, grâce à Sud Radio, déjà, je me rappelle au début, m'en ont suggéré d'autres. Donc, c'est une paternité partagée, mais c'est vrai qu'il y en a même quand même beaucoup qui ont été fabriqués ici dans ma petite usine par moi et puis par ma petite Marie qui est pas loin et que tu connais bien. Alors donc, les hallucinations auditives, on appelle ça aussi des illusions sonores. Comment il s'appelle ? Salvador Dali, lui, il parlait de paranoïa critique. Enfin, c'est simplement des chansons, des extraits de chansons, des passages dans des chansons, en général étrangères, où on croit percevoir des phrases en français. Mais ça arrive aussi que dans des chansons en français, on croit entendre tout à fait autre chose. Et en général, c'est un peu comme les contrepéteries, ça n'a d'intérêt que si c'est un peu obscène, voyez-vous. un peu coquin, quoi.
Alors, ce qui est quand même très curieux aussi, Serge Liado, c'est que quand on a entendu le mot français et qu'on réécoute le mot anglais originel, on garde quand même en tête ce mot français. C'est-à-dire qu'on est marqué. C'est assez curieux, ce phénomène. On garde le mot français.
Oui. Il y a une psychologue ou une neurologue qui s'est penchée sur ça, une américaine dans les années 50, vous voyez déjà, c'est pas neuf le phénomène, c'est que quand on entend des mots qu'on ne comprend pas bien, soit parce que la personne est trop loin, soit parce qu'il y a un autre bruit par-dessus, ce qui peut arriver par exemple en discothèque, tu discutes avec quelqu'un, il y a du boum-boum, et on n'entend pas tout, eh bien nous, notre cerveau, il substitue un mot qui est proche, mais qui a une signification assez proche de celle qu'on croit entendre, voilà. Donc c'est ce que font les sourds d'ailleurs. Hein. Les sourds, ils ont quoi, un balai, vous voyez, c'est ça les hallucinations auditives. Sauf que chez nous, c'est drôle parce que on va chercher des trucs un peu capillotractés quand même. Il faut le dire.
Oui, tiré par les cheveux. Alors on écoute ce montage que tu as. Oui, ben oui. C'est comment s'appelle l'humoriste qui avait utilisé beaucoup ce terme sur scène. Mais j'ai oublié son nom. Qui lance des légumes un petit peu sur scène, là, qui est complètement disjoncté. Comment il s'appelle? Bon, pas grave.
Martini.
Tu vois qui? Non, pas Martini. Bon, bref, c'est pas grave. J'oublie son nom. Gustave Parking. Oui, qu'on salue. Alors, mon Serge Edo, on écoute le montage. Explique-nous ce qu'on va écouter là, donc.
Je me rappelle plus qu'est-ce que c'est au départ.
C'est un florilège. C'est un florilège, oui, c'est ça, de ces choses-là.
Oui, un best-of. Voilà, c'est ça.
Un best-of.
Voilà, il y a eu plusieurs épisodes. Je crois que j'ai fait une trentaine d'épisodes et là, j'ai gardé les meilleurs moments.
On les écoute sur Sud Radio dans un Loft Musique en direct. Les hallucinations auditives signées Serge Liadeau.
Les paroles de chansons qu'on comprend de travers, nous avons tous connu ça, ça nous ramène en général à l'enfance. Certains d'entre vous, par exemple, en écoutant le générique du feuilleton Jeanne et Serge, entendaient très distinctement « Elle sait jouer avec ta langue et son cœur est bondissant ».
Elle sait jouer avec ta langue et son cœur est bondissant. Elle sait jouer avec ta langue et son cœur est bondissant.
Oui, c'était l'époque de l'innocence. On ne s'étonnait pas, par exemple, que Luis Mariano rende hommage au Martin Circus quand il disait « On a chanté les Marilènes ».
On a chanté les Marilènes, on a chanté les Marilènes qui vont aux arènes pour le torero.
On était persuadé qu'il était possible d'attirer les chamois avec un instrument de musique et qu'il rapplique si on joue la guitare à chamois.
Si un jour la guitare à chamois.
On ne se demandait pas si le groupe Trian avait pris des substances hallucinogènes quand il affirmait « J'entends le loup, le renard en mobilette ».
J'entends le loup, le renard en mobilette, j'entends le loup et le renard chanter. J'entends le loup, le renard en mobilette, j'entends le loup et le renard chanter.
Quelques années plus tard, notre corps s'éveillait à la puberté et on commençait à ressentir certains émois. En écoutant Diane Tell chanter « Si les hommes n'étaient pas si pressés de prendre mes fesses ».
Si les hommes
Les beaux jours arrivaient, les lycéennes se montraient dans leurs atours printaniers, les adolescents affolés approuvaient leur porte-parole Herbert Léonard quand il déplorait « Je n'ai qu'un pénis ».
Je n'ai qu'un pénis, je n'ai qu'un pénis, je n'ai qu'un pénis.
La cour de récré, c'est une société en devenir. Il y a d'un côté les meneurs d'hommes et de l'autre ce que Eddie Mitchell appelle les petites quéquettes.
Le type quéquette.
En devenant adulte, on comprend mieux les paroles des chansons, sauf si un interprète a un fort accent étranger, comme Stéphane Eicher, et qu'on croit l'entendre dire « Quand tu traverses la pièce en silence, que tu pètes devant moi ».
Quand tu traverses la pièce en silence, que tu pètes devant moi, que tu pètes devant moi.
Et à la limite, on le comprend mieux quand il s'exprime en allemand. Enfin, je veux dire, en dialecte bernois. « Il y en a assez, trois œufs, t'as mangé trop !» Exceptionnellement, il arrive que ce qu'on croit entendre, c'est ce que l'interprète a vraiment dit. Comme la fois où, dans une émission de télé, Patrick Fiori a chanté devant un Serge Lama médusé « Il m'a couvert de boue, d'eau propre et de scandale ».
Un voyou s'est vautré dans mon lit conjugal. Il m'a couvert de boue, d'eau propre et de scandale. Il m'a couvert de boue, d'eau propre et de scandale.
Oh, c'est un petit détail de rien du tout. Mais c'est charmant car ça signifie tout simplement que certains artistes, quelque part, sont restés des enfants. Et c'est très bien comme ça.
Serge Liadeau, les hallucinations.
Je crois qu'on s'est trompé de fichier.
C'est pas les bonnes hallucinations, mais celles-là sont vachement bien aussi, sauf que là, c'était déjà en français et on entendait d'autres choses, mais en français. Alors que
exactement,
l'idée première...
C'est l'exception qui confirme la règle, ce sont des hallucinations à partir de phrases mal comprises en français, ce qui est quand même assez rare. Hein.
Et oui, 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 bien sûr, bien sûr. Mais il y en a quand même. Il y en a qui sont un peu tirés par les cheveux, effectivement. Justement, celle sur Stéphane Escher. Heureusement qu'il a pas entendu, parce que
je me suis dit, ouais, comme tu le recevais aujourd'hui, je me suis dit, tiens, on va voir si on n'a pas des dossiers sur lui.
Serge Dadeau, mais tu sais ce que je te propose, eh ben, c'est de repasser pour nous faire écouter la version, ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire les chansons en anglais qu'on entend, qu'on croit entendre en français. Quoi, il faut vachement de temps pour faire ces trouvailles-là, Serge Dadeau. Il y a un montage et beaucoup de recherches, en fait.
Oui, oui, oui. Au départ, il y a eu beaucoup de recherches et à partir du moment où on me suggérait d'écouter telle ou telle chanson, je découvrais qu'il y avait dans la même chanson deux ou trois extraits intéressants. Il y avait des chansons hallucinogènes comme celle dont vous parliez, je crois, tout à l'heure, off micro, c'était « C'est Noël, c'est Noël, c'est Noël ». Et bien, dans cette chanson-là, qui s'appelle « Sail Away », c'est ça, le groupe, c'était…
Oui, ouais, c'est ça, on entend « C'est Noël ».
Et on entend, mais il y en a quatre ou cinq, dans la même chanson. Donc voilà, à partir du moment où on m'en suggère une, je peux en trouver cinq. Et autant vous dire que aujourd'hui, je suis à la tête d'une petite collection de 750 hallucinations auditives.
Incroyable, bravo, qui dit mieux.
Ouais. Alors,
tu sais, mon Serge Dadeau, je vais te donner une petite mission, si tu l'acceptes, quand tu reviens la semaine prochaine pour nous parler de ces hallucinations auditives, enfin pour écouter l'original dont on parlait tout à l'heure, je te suggère un truc. J'ai écouté quand on a reçu Lara Fabian la semaine dernière. Il y a dans la dernière chanson de Lara Fabian une mélodie qui fait penser et qui est très proche de la danse hongroise, l'une des danses hongroises de Brahms. Et j'aurais bien aimé que tu te penches sur la question pour voir si tu penses effectivement que c'est exactement la même chose ou est-ce que c'est une citation qu'elle a faite en l'assumant totalement ou pas. Tu pourrais nous regarder ça, Serge Dadeau.
Je l'ai fait, j'ai regardé.
Tu nous diras alors.
D'abord, ouais. C'est, tu as raison, c'est un démarquage. C'est un jazz. Quand on utilise la même suite d'accords avec des mélodies différentes et en classique on appelle ça des variations, et bien ce sont des variations, oui, sur la danse hongroise numéro 5 de Brahms. Et d'ailleurs, justement, si on va jusqu'à la mettons jusqu'à la une minute et demie, là il y a carrément la citation sans changer la mélodie de Brahms. Donc c'est une ressemblance assumée, quoi.
C'est une citation.
D'accord. C'est ça, il y a juste un petit refrain qui est différent, c'est tout.
D'accord. Donc, me voilà rassuré, et je n'en doutais pas une seconde, mais bon, voilà, quelquefois quand les citations ne sont pas mentionnées, j'allais dire, on a des doutes, on se dit, mais bon, là c'était évidemment, et c'est beaucoup, le rap a beaucoup amené ça, d'aller chercher des samples et des boucles qui sont des choses déjà existantes sur lesquelles on propose, voilà, un flow différent, et le rap finalement c'en est un peu la définition.
Oui,
merci,
oui, oui.
Serge Dadeau.
Eh bien,
merci, mon
Sergio.
La semaine prochaine, on te retrouve pour l'origine là de le montage en anglais, évidemment, parce qu'on a l'eau à la bouche. Salut, Serge Dadeau. Merci beaucoup d'être passé nous voir. On accueille dans quelques secondes de Team Dump avec ce titre extrait de son nouvel album, un titre éponyme. Quand restera-t-il au téléphone avec nous juste après? Quand restera-t-il Team Up? C'est une résonance, comment dirais-je, qui n'est pas acoustique totalement. Donc on ne sait pas si elle s'arrête ou pas, ou si les machines peuvent la faire durer pendant 2-3 jours et même plus. Salut Team Up.
Salut Yvan, ça va?
Ouais, content de te retrouver Team Up. Devant ta terrasse.
Je te vois pas, moi, c'est normal.
Ah, tu me vois pas? Je ne sais pas, on va demander à Thibaut qui va peut-être aider ça pour que tu me vois sur le partage d'écran peut-être. Moi, je te vois en tout cas.
Ah yes,
c'est magnifique avec cette petite moustache. Mon team d'up, alors, comment tu vas?
ça va, je suis encore un peu plus ou moins confiné quand même, mais non, ça va bien, je suis dans les Landes.
D'accord, il y fait beau dans le sud, de toute façon. C'est marrant parce que j'ai pensé à toi ce matin parce que je suis tombé sur un... En tout cas, hier, je me suis remis à parcourir Milan Kundera. La vie est ailleurs, notamment. Et je me suis rappelé que tu étais dans la référence souvent à Jean Cocteau, à Milan Kundera notamment. Et tu cites l'incipit de l'insoutenable légèreté de l'être. Son drame n'était pas le drame de la pesanteur, mais de la légèreté. Ce qui s'était abattu sur elle, ce n'était pas un fardeau, mais l'insoutenable légèreté de l'être. C'est-à-dire qu'on est quand même dans cet album-là et dans ta démarche littéraire et textuelle, dans des influences, justement, autour de ces univers-là, de cette légèreté apparente de Cocteau, parce que tu le cites également, tu es très influencé par ces auteurs-là, Team Up.
Écoute, je dirais pas que je suis influencé directement par la littérature, parce que c'est quelque chose qui est venu un peu sur le tard. J'ai pas été un très très grand lecteur pour être honnête, et en fait c'est une passion qui se nourrit petit à petit, mais par contre c'est vrai que pourquoi je citais notamment ces auteurs là sur le dernier disque, parce que pour moi ils cristallisent vraiment ce que j'ai voulu mettre à la fois dans le thème, ce que raconte cet album, c'est un peu une histoire du temps. Et donc, je trouve qu'on est pris en étant humain entre, évidemment, la légèreté que t'amène la musique, l'ivresse, l'art, les gens, l'humain, le voyage, et avec cette pesanteur aussi qui nous rattrape, mine de rien, de nos existences éphémères, là aussi le monde qui crie, la dureté parfois de la vie. On l'a vu là, quand même, dans cette période, que c'était pas forcément un enchantement pour tout le monde. Donc voilà, c'est un peu en tout cas l'idée de naviguer entre deux eaux, entre deux rives, avec cette idée de garder en esprit qu'on n'est pas grand-chose, mais que voilà, tu vois, comme dit cette citation de Cocteau, plus tu réduis l'échelle du temps à ce qu'on est nous, dans notre espace-temps présent, plus il y a de l'intensité, de la saveur à vivre dans le présent, et en plus je crois les choses ont de sens aussi.
Ouais. Le temps des hommes est de l'éternité pliée. Mais qu'est-ce que c'est beau, Jean Cocteau. Et puis dans les dualités dont tu parles, il y a celle aussi dans la forme, c'est-à-dire une tradition dans laquelle tu t'inscris de cette littérature quand même dont on parle, c'est-à-dire dans l'aspect du texte, dans ce néo-romantisme, ce romantisme comme ça, un tantinet désuet, et puis une modernité de son sur cet album que tu as trouvé en faisant appel à des gens, Damien Tronchot par exemple, ou Renaud Létang, qui t'amène aussi cette forme de dualité dans la forme.
Ouais, en fait j'aime beaucoup l'art du contraste et de la nuance, et ça me plaît quand tu vas raconter des histoires en français et que tu essayes d'apporter à la fois du sens et de la délicatesse dans les mots, d'avoir une forme d'urgence et de modernité dans la musique aussi. Voilà, j'aime bien quand tu peux faire toujours le contraste, et même à l'intérieur d'une chanson tu peux le faire aussi. Par exemple, aller vers des sonorités, je ne sais pas, un peu plus indé quand tu as un texte qui est plus populaire, et inversement, par exemple. aller dans un truc avec des parfois très minimal, par exemple dans Place Espoir, qui est une chanson sur la place de la République à Paris. Ça me paraissait essentiel de concentrer ça sur juste un piano-voix, justement parce que le texte amenait déjà en fait peut-être une certaine densité. Donc voilà, ouais, c'est vrai que cette dualité-là, je m'y attache aussi. Et puis tout simplement parce que j'ai 25 ans, donc forcément, j'écoute pas que de la chanson française hyper classique non plus. J'écoute aussi voilà, plein de choses modernes, que ça passe par le rap, l'électro. Mais voilà. Ouais.
Tu vois, Tim Nob, quand tu me dis que tu n'as pas, enfin, tu es pas un énorme lecteur, Tim Nob, quand on t'entend parler, qu'on entend ton âge, on est toujours, on en a déjà parlé de ça, on est toujours surpris parce que par ce décalage entre la réalité de ton âge et la maturité de tes propos. Si tu me dis que tu n'as pas beaucoup lu, alors cette maturité-là, 25 balais, elle vient d'où ?
Déjà, je pense qu'il y a deux choses sur l'écriture d'abord. Je pense que t'as pas besoin de lire beaucoup de bouquins et de très grands auteurs pour avoir déjà juste l'envie d'écrire. Après, bon, est-ce que tu sais bien écrire, est-ce que tu sais pas bien écrire, c'est assez subjectif finalement, encore une fois ça. Mais par contre, l'envie d'écrire, ce qui te donne l'envie de raconter des histoires et de passer à l'étape où voilà, tu vas prendre ton carnet et t'écris tes mots. Et tu racontes ça parce que ça te fait du bien et parce que tu as l'impression que peut-être que ça peut toucher des gens aussi. Ça, je pense que ça vient juste de vivre des trucs, en fait. Et pour moi, l'écriture vraiment se nourrit du vécu, plus que de l'inspiration qu'on peut avoir de tel ou tel auteur. Et je trouve vraiment que plus tu vis de choses, plus tu as envie de raconter de choses aussi. Et après, sur la question de la maturité, c'est... en fait, moi-même, je ne me considère pas forcément, tu vois, comme quelqu'un de particulièrement mature en tout. Encore une fois, il y a une double personnalité aussi là-dedans. J'ai aussi une mentalité de jeune mec qui fait le con en soirée et qui boit des coups avec ses potes et qui se prend pas trop la tête. Donc,
mais ça n'empêche voilà, pas, ça n'a rien à voir. Bien sûr, n'empêche après, on peut boire des coups et être très mature. Hein.
c'est vrai. Non, mais je sais pas. Ouais, non, mais tu vois, il y a des choses pour lesquelles je suis sans doute pas mature, mais il se trouve que voilà, je préfère renvoyer ça en vrai que l'inverse, donc tant mieux. Mais c'est vrai que ça étonne souvent quand tu as quelqu'un qui est jeune. Je trouve ça intéressant, tu vois. J'ai lancé un podcast là avec ma sœur, il s'appelle Tant retrouvé, tant bouleversé. Bref, on fait plein d'épisodes et à chaque fois on invite des gens. Et on a invité une petite fille, Julia, qui a 5 ans et demi et en fait qui nous raconte son temps de confinement. Et donc elle nous parle de temps. De ses jeux, du lien, de sa famille, du manque de ses amis, d'aller au ciné, de faire des trucs. Et quand tu écoutes une enfant, il y a quand même cette idée, quand les enfants ont de l'esprit, que voilà, ça nous fascine. Et c'est marrant, ensuite, il y a une espèce de tranche d'âge, je crois, entre peut-être 15 et 25 ans, où c'est plus étonnant et où on a aussi peut-être plus de mal à entendre cette jeunesse qui grandit. Parce que forcément, elle a aussi en elle des ingratitudes, des imperfections, une fougue aussi. Je pense que c'est ce côté-là aussi dans la jeunesse qui est intéressant. C'est une vraie question, on pourrait disserter longtemps là-dessus. Mais tu vois, par exemple, pourquoi Greta Thunberg cristallise à la fois des passions super positives, et moi je suis plutôt parmi ces gens-là, et d'autres qui la critiquent vachement. Et je pense que ça se joue bien sûr à son jeune âge, mais aussi à cette fougue de la jeunesse, et cette maturité qui peut être vue parfois comme de l'impertinence. Mais bon, je crois que l'impertinence, c'est pas mal aussi de temps en temps.
Absolument. Et puis, elle est souvent la bienvenue dans la création. Cette impertinence, elle va souvent de pair, d'ailleurs. Sans impertinence, est-ce qu'il y a vraiment de l'art ? Est-ce que l'art n'est pas fondamentalement impertinent ? Ça, c'est une autre question philosophique intéressante. Merci, mon Tim Nob, d'être passé nous voir dans ce Loft Music en direct. Ce soir, Quand restera-t-il ? C'est le titre de ton nouvel album. Magnifique, on en reparlera. Hein. Tu reviendras quand tu sortiras des Landes pour nous rejoindre en live dans les studios du Luna Rossa. Salut mon team d'up, prends soin de toi,
à tout
bientôt.
C'était cool de te voir, Yvan. Prenez soin de vous, tout le monde, et puis à très bientôt.
tout pareil. Salut, team d'up. Team d'up qu'on a reçu bien au tout début en fait de son joli parcours et qui est devenu une valeur sûre, une valeur montante, une belle émergence de ces dernières années dans la chanson française. Voici quelqu'un qui a émergé depuis très très longtemps. Il s'appelle François Troller. Il est attaché de presse. C'est un copain du Loft Music et de Sud Radio. Et je suis content, comme plein d'autres attachés de presse avec qui on travaille avec bonheur, de t'avoir, mon François Troller, pour parler de ton métier et des dangers auxquels il est confronté dans cette période très compliquée. Salut François Troller.
Salut Yvan, bonsoir à tous.
Merci d'être avec nous. Alors, tu es attaché de presse. On va dire en deux mots en quoi consiste ce métier. Tu travailles avec plein de gens, avec Cali, avec Oldelaf, avec qui d'autre, avec Anaïs Delva.
Avec Les Frangines, avec Superbus, avec Marca, que tu as reçu là en début de semaine, avec Nistorma, oui. Ça a pas mal d'artistes, effectivement.
Avec Fred Zetoun, avec etc., etc. Donc, tu es quelqu'un qui pratique ce métier depuis relativement longtemps.
Trop longtemps.
15 ans exactement. Et aujourd'hui, mon François, il y a un vrai appel au secours, de la part de vos métiers dans la crise actuelle, parce que vous avez peur d'être les oubliés finalement de cette crise.
C'est un peu ça. On est les oubliés, parce qu'on parle beaucoup des intermittents et on est tous très contents que les intermittents aient obtenu gain de cause avec cette année blanche. Mais il y a beaucoup de métiers qui sont encore oubliés. Il n'y a pas que les attachés de presse, mais il y a, entre autres, sur ce que je maîtrise le mieux, les attachés de presse. Faut savoir que les attachés de presse, une grande partie sont indépendants. Tu vois, les attachés de presse qui sont salariés en maison de disques, qui sont payés, donc qui sont soit toujours payés, soit au chômage partiel, soit au chômage technique. Donc, de leur côté, pas de souci. Mais pour nous, les attachés de presse, c'est indépendant. Il y a uniquement le fonds de solidarité du gouvernement qui nous permet de toucher une aide de 1500 euros par mois si on a fait 50% de perte de chiffre d'affaires par rapport au même mois de l'année précédente. Sauf que certains d'entre nous vont perdre 50, 70, 80% de leur chiffre d'affaires annuel, notamment les camarades qui travaillent principalement sur les festivals. Donc, les festivals étant tous annulés, les budgets sont purement et simplement annulés. Donc, pour ces attachés de presse-là, c'est des pertes sèches assez importantes. Et les 1500 euros d'aide mensuelle, quand on peut les toucher, évidemment, ne suffisent pas à combler tout ça.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait faire? Alors, qu'est-ce que vous demandez? Comment vous vous débrouillez pour réagir, pour proposer des solutions? Peut-être vous faites comment entre attachés de presse et une solidarité?
On a fait appel au Centre national de la musique pour pouvoir bénéficier aussi des aides. Le président de la République a annoncé la semaine dernière qu'il allait allouer 50 millions d'euros supplémentaires au Centre national de la musique pour aider la filière. Donc on a demandé à être partie prenante de ces aides. De quelle manière? On n'en a aucune idée. Alors, est-ce que c'est une nouvelle fois des décalages de charges, des exonérations de charges, etc.? Est-ce que c'est prolonger cette aide de fonds de solidarité? Parce que, comme tous les indépendants, on a des décalages de trésorerie. Quand tu envoies une facture en janvier, on est payé en février, mars, avril ou plus, des fois. Donc, là, sur les mois où on peut bénéficier de ce fonds de solidarité, on a des rentrées de trésorerie, mais que nous n'aurons plus au mois de juin, au mois de juillet, par exemple. Au moment où le fonds de solidarité n'existera plus. Donc, on a besoin que ce fonds de solidarité soit prolongé de quelques mois pour pouvoir survivre au moins pendant les mois d'été, au moment où on sera donc complètement à sec en termes de rentrée de trésorerie.
Ouais. J'en profite pour signaler, pour rappeler que il y a deux hashtags importants, jouons les artistes français et la scène française, pour vous rappeler que dans cette période, il est important de soutenir les métiers périphériques, comme on vient de l'évoquer avec François Troller, et puis les artistes français, notamment l'émergence, qui risque d'être un petit peu comme ça perturbée quand les grosses machines vont se remettre en route. N'oublions surtout pas ça.
Ces artistes ont perdu beaucoup de beaucoup d'activités avec les tournées. Donc les tournées, c'est ce qui aujourd'hui fait vivre les artistes par les revenus, les cachets tout simples et par les droits d'auteur, compositeur qui découlent des concerts. Donc on est parti sur 3 mois, 6 mois, voire plus sans concert. Ouais. Donc ces artistes-là n'auront pas de revenus du tout. Donc si les radios ne jouent pas le jeu, en jouant un petit peu plus, ces artistes-là n'auront aucun revenu pendant
plusieurs mois. Et ben nous, on le fait. Et ben, nous, on le fait.
Donc, est très présent, tout ça, et le Loft Music toujours, depuis, enfin, depuis toujours. Donc, merci encore à toi.
Eh bien, merci, mon François. Merci
pour,
à toi.
Pour tous nos artistes.
Et... On est très heureux et puis voilà, le métier d'attaché de presse, on n'a pas eu trop le temps de le détailler ce soir, mais on le fera avec plaisir une autre fois. Salut mon François Troller et bon courage à toi et à tous les collègues attachés de presse qu'on embrasse. Merci à vous d'être restés avec nous dans ce Loft Music en direct ce soir encore. Toute vérité est bonne à dire, c'est avec Didier Maistre dans quelques secondes. Demain, nous recevrons Rose Mathias Malzieu, le chanteur emblématique de Dionysos. Bonne soirée sur Sud Radio, bye bye, à demain.